La France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h et vous êtes au bon endroit pour découvrir des entreprises qui vont bien en ce moment. Des femmes, des hommes qui se lancent, qui osent et qui bâtissent le monde de demain. À mes côtés, Emmanuel Duteil, le chef du service économie d'Europe 1. Bonjour Emmanuel.
Bonjour Elisabeth Assayag et bonjour à tous. Alors vous avez eu besoin peut-être d'acheter une imprimante pour faire cours à la maison. Vous avez changé de télé parce que pendant le confinement, vous êtes rendu compte que la vôtre commençait à fatiguer. Vous avez acheté une machine à pain parce que oui, vous avez voulu devenir votre propre boulanger. Eh bien, sachez que vous êtes nombreux dans ce cas-là. Les magasins d'électroménager et de Hi-Fi ont le sourire. Emmanuel Deschamps, le patron de Boulanger, est notre invité jusqu'à 14h.
À la une, en effet, Emmanuel, l'électroménager. Pourquoi ne pas faire du neuf avec du vieux ? Une plateforme française spécialisée dans l'achat et la revente de produits reconditionnés se porte, elle aussi, très bien. Back Market est avec nous et son directeur des opérations nous dira tout dans quelques instants.
Cette marque existe depuis 1924. Elle propose des lave-vaisselle, des lave-linges, des sèche-linges, des réfrigérateurs, des congélateurs, des caves à vin, des cuisinières, des fours, des hottes, des fours à micro-ondes. Et oui, c'est l'une des dernières marques françaises d'électroménager qui fabrique encore un peu en France. Brandt, saga du jour, dans La France bouge à 13h30.
Bien sûr, les trophées européens. Chaque jour, un entrepreneur, une entrepreneure vient nous présenter son projet. Aujourd'hui, nous avons retenu Baby Bride, une poussette 100% française et purée et zéro déchet.
Et en fin d'émission demain au travail, on passera un coup de fil à Novartis. Le laboratoire offre 4 mois de congé parental pour les salariés.
Allez, bienvenue dans La France bouge. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h.
La France bouge sur Europe 1.
La France bouge, on met chaque jour à la une des entreprises, des associations, des initiatives qui fonctionnent. Et s'il y a bien un secteur où ça va, semble-t-il, plutôt bien, eh bien c'est dans l'univers de l'équipement de la maison.
Bonjour Emmanuel Deschamps.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes le directeur général de Boulanger. Vous faites partie du groupe Mullier. Vous vendez du multimédia, de l'électroménager et on nous a murmuré que 2020 pourrait bien être pour vous la meilleure année de toute l'histoire de Boulanger. Est-ce que c'est vrai ?
Bon, en tout cas, l'année n'est pas terminée, mais ce qui est sûr, c'est que la crise sanitaire avec le Covid change profondément le mode de vie des Français et donc le mode de consommation. Mmh. Et évidemment, aujourd'hui, ils se sont confinés pendant quelques temps. Aujourd'hui, ils sont déconfinés, mais ils ne peuvent pas encore tout faire. Et donc, les spectacles, les voyages sont, on le sait, malheureusement à l'arrêt. Et donc, tout ce qui tourne autour de la maison marche très fort en ce moment.
On va regarder dans le détail, mais la question d'Elisabeth était assez précise. Est-ce que ça pourrait être la meilleure année de toute l'histoire de Boulanger ?
Nous sommes partis pour la réaliser, effectivement.
Donc c'est ça. Donc ça se porte effectivement très très bien. Comment on l'explique malgré tout ? C'est parce que, comme je le disais en introduction, on a changé notre télé parce qu'on s'est rendu compte que celle qu'on avait était un petit peu vieille. On a voulu s'équiper pour le télétravail, pour faire cours à la maison. C'est tout ça qui explique que vous êtes parti pour quelque chose d'aussi impressionnant que cette année historique ?
On est vraiment dans le mode de vie. Hein. C'est vraiment la consommation est poussée par le mode de vie. Donc le télétravail, l'école à la maison pendant le confinement et donc tout ce qui est bureautique, informatique, enfin, vous l'avez dit tout à l'heure, a poussé très fort. Et les gens, je rappelle, ils ont vécu matin, midi et soir chez eux. Et donc, tout ce qui tourne autour de la cuisine, dans un deuxième temps, fortement poussé, donc les robots de cuisine, etc. Et puis, quand vous ne pouvez pas aller au spectacle, quand vous pouvez moins sortir, bah peut-être que vous regardez un peu plus la télévision, qui est devenue un nouveau loisir dans la maison. Et donc, tous nos produits sont fortement aujourd'hui dynamisés par cette consommation qui est très actuelle dans le mode de vie des Français.
Alors, vous parlez de mode de vie. Il y a le télétravail aussi qui arrive en flèche dans nos nouveaux modes de vie. Est-ce que cela pousse encore aujourd'hui les familles à s'équiper ?
Alors, on a vu cet été notamment des particuliers monter des petits bureaux chez eux, monter en gamme en produits pour avoir des produits plus agréables. Je pense aux ordinateurs, aux écrans, etc. Et même les climatiseurs pour mieux vivre son travail à la maison. Donc je pense que le télétravail sera quelque chose de très durable. Et donc effectivement, ça pousse les particuliers à s'équiper chez eux.
Est-ce que vous voyez en ce moment même un rééquipement ? Parce qu'on en parle toute la journée sur l'antenne d'Europe 1, la deuxième vague est là. Il y a des restrictions toujours plus importantes. Il y a des entreprises qui rebasculent beaucoup plus fortement en télétravail. Est-ce que ça se matérialise directement en ce moment même dans vos magasins boulangers ?
Alors là, depuis le mois de septembre, depuis la rentrée, nous sommes dans les mêmes tendances que cet été. Et donc, effectivement, tout ce qui est bureautique, informatique, les imprimantes, vous en parliez, les cartouches d'encre, etc., ça pousse très fort. Mmh. Donc, on sent effectivement qu'en ce moment, le télétravail se met en place, voire s'accélère avec cette pseudo-seconde vague, j'ai envie de dire, qui se met en... Oui, on sent une petite tendance.
C'est pas une pseudo, hein, je pense que...
C'est pas pseudo,
on y
oui,
est. Ça veut dire que vous allez reconfigurer vos magasins ? Est-ce que vous allez peut-être mettre un rayon télétravail ? Comme ça, ce sera beaucoup plus évident pour nous consommateurs de trouver l'imprimante qu'il faut. Voilà, tout le matériel.
Je ne sais pas si c'est dans l'agencement, parce qu'aujourd'hui, nos magasins, c'est assez clair. Les gens sont plutôt des repères.
Ça peut attirer le client
mais en tout cas, dans le choix des produits, dans l'écosystème autour de la bureautique, c'est plutôt dans le choix des produits qu'on travaille notre assortiment, plus que dans l'agencement des magasins.
On parlait là de bureautique. Je crois qu'un des produits qui a aussi cartonné pendant le confinement, je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, c'est le congélateur. Parce que les gens ont eu peur de devoir rester longtemps à la maison et se sont dit, soit on va en prendre un plus grand, soit on va... s'équiper d'un nouveau congélateur, c'est ça l'idée, Emmanuel Deschamps, patron de boulanger.
Juste après le confinement, les deux familles de produits qui ont le plus été impactées, c'est effectivement l'informatique, ce que je viens de parler, et la deuxième, de façon assez surprenante, c'était les congélateurs, effectivement, puisque les gens ont fait des provisions, de crainte qu'il y ait des pénuries. Alors depuis, ça s'est calmé quand même, parce que tout le monde a vu que c'était possible, mais effectivement, les congélateurs ont fortement été impactés par le Covid.
Mais pour qu'on ait une petite idée, vous n'en aviez jamais vendu autant de votre histoire, par exemple, sur un temps si court, juste pour qu'on se rende compte de la proportion, de l'importance du mouvement.
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les congélateurs, le marché des congélateurs, c'était durablement environ zéro, quoi. En termes de progression de chiffre d'affaires, c'est quelque chose de très stable avec un renouvellement.
Ouais, on les renouvelle tous les 10 ans, tous les 15 ans.
Voilà, exactement. Donc les gens qui en ont un en rachètent un, ceux qui n'en ont pas, n'en ont pas. Là, on a doublé les ventes dans les semaines qui ont suivi le confinement. Donc, vous voyez,
mais parce qu'ils tombaient en panne ou ils se sont dit on va en un truc beaucoup plus puissant avec la machine à glaçons, plus grand.
Plus grand, un de plus. Où nous n'en avions pas, on en avait envie, et puis le prétexte à favoriser l'achat.
Alors je crois que ça marche aussi pour les frigos, on rentre vraiment dans le détail de chacun de vos magasins, mais là, je crois que vous avez aussi bénéficié d'un événement spécial qui s'appelle la canicule, puisque je crois que c'est vraiment le produit, on l'ouvre tellement pendant les périodes de canicule, il chauffe pour faire du froid, et par définition, donc il casse beaucoup plus à ce moment-là.
Alors si je dois rentrer un petit peu dans la technicité de notre métier, hors période, mais l'été est la plus grande saison, la plus grande saisonnalité pour les réfrigérateurs. Parce qu'effectivement, un réfrigérateur, lorsqu'il fait très chaud, beaucoup lâche. Hein, donc effectivement, à cause de la canicule, on a eu beaucoup de ventes de réfrigérateurs chez Boulanger.
Tout va bien chez Boulanger. Vous allez continuer à nous en parler, Emmanuel Deschamps, directeur général de Boulanger. Vous restez avec nous.
Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Dutheil.
La France bouge, on parle aujourd'hui de nos produits électroménagers avec notre grand témoin du jour, Emmanuel Deschamps, le patron de Boulanger, qui vient de nous dire que 2020 va être une année exceptionnelle pour le groupe, mais on pourrait dire pour tout le secteur. Ça va effectivement plutôt bien de ce côté-là, et c'est pour ça que c'est dans la France bouge, puisque chaque jour, on met à la une tous ces secteurs qui se portent quand même pas trop mal.
Et encore un autre secteur qui va bien avec vous, Raoul Costa de Beaurecard, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Alors vous êtes le directeur des opérations de Back Market. Votre entreprise, elle existe depuis 2014, 345 salariés partout en France, mais aussi des bureaux à New York. Vous donnez une deuxième vie à nos objets, notamment nos objets électroménagers. On vous les vend et vous les remettez quasi à neuf pour les revendre. C'est ce que l'on appelle des produits reconditionnés. On est en plein dans une solution qui a du sens, hein, puisque vous êtes en quelque sorte un intermédiaire qui permet de reconsommer. Donc finalement, c'est très vertueux.
Exactement. Back Market est la première place de marché qui propose aux consommateurs des produits technologiques, électroménagers, électroniques, qui sont remis à neuf par des professionnels certifiés, comme vous l'avez dit, qui sont les reconditionneurs. On reprend aussi des produits qui vont être cette fois achetés par les reconditionneurs pour les remettre à neuf. Donc comme ça, on peut boucler la boucle de l'économie circulaire, vendre des produits et leur donner une seconde vie, mais aussi racheter les produits des Français, et il y en a beaucoup dans les placards et dans les tiroirs, à remettre à neuf et à revendre.
Quand vous dites remis à neuf, c'est-à-dire qu'on a à nouveau le droit, par exemple, à une garantie si jamais on a un produit chez vous, pour se dire qu'il va durer 2-3 ans si jamais on doit avoir le moindre problème ?
Tous les produits qui sont vendus sur Back Market, effectivement, ont une garantie minimum de 1 an, 30 jours pour le client pour changer d'avis s'il veut changer de produit. Et la qualité, c'est le premier aspect sur lequel nous travaillons sur Back Market pour atteindre le même niveau de qualité que les produits neufs. Notre mission à Back Market, c'est de ne pas donner de raison à un client d'acheter un produit neuf. Et pour cela, il faut que la qualité des produits reconditionnés soit au même niveau. C'est ce que nous faisons tous les jours avec les reconditionneurs.
Donc très bonne qualité et prix bien moins cher.
Généralement, les prix sur le reconditionné sont de l'ordre de -30 à -70% par rapport aux produits neufs, que ce soit pour les téléphones dont vous avez parlé, mais aussi l'électroménager, les consoles de jeu ou toutes les autres catégories.
Donc 30% moins cher, j'ai l'impression d'avoir un produit neuf entre mes mains, récent.
Alors tous les produits sont remis à neuf, fonctionnels comme les produits, comme produits achetés neufs. Certains de nos clients achètent les derniers produits, notamment les smartphones Apple ou l'électroménager Dyson. D'autres clients sont intéressés par des produits qui sont un peu plus anciens parce qu'ils sont moins chers. Effectivement, il y a une décote plus importante pour les produits qui sont plus anciens.
Est-ce que vous avez là-dessus aussi bénéficié du confinement? Parce qu'on a vu, à la maison, on a eu envie de changer de frigo parce qu'on s'est dit, tiens, le nôtre était peut-être un petit peu pas en forme. Donc j'imagine que vous avez bénéficié de la vague de tous ces produits qu'on a voulu vous revendre pour que vous puissiez les reconfiner.
Exactement. Et comme Emmanuel l'expliquait, nous avons vu les mêmes tendances. Travail à la maison, école à la maison, s'amuser à la maison avec les consoles de jeu et la cuisine à la maison.
Donc ça a doublé ? Les ventes ont doublé ?
Les ventes ont doublé pendant le confinement. Et ce qui est très intéressant, c'est que comme Back Market est présent en Italie et en Espagne, où le coronavirus est arrivé en premier, on a pu voir l'impact de ça dès le début. On est aussi présent aux États-Unis où le coronavirus a persisté plus longtemps.
Et donc persiste encore, on le voit aujourd'hui avec Donald Trump.
Et on continue du coup à le voir plus aux États-Unis qu'en Europe.
Mais du coup, d'où viennent vos produits? C'est nous, Elisabeth et moi, qui aurions pu se dire, tiens, pendant le confinement ou à un autre moment, on ne sait plus quoi faire de notre console de jeu du petit dernier parce qu'il est trop grand. C'est ça votre principale source pour récupérer des produits?
Aujourd'hui, ce n'est pas la principale source. Et c'est une source que nous cherchons beaucoup à développer. La principale source de produits, ce sont des usines de reconditionnement qui, elles, vont prendre des produits auprès des assureurs ou des opérateurs, par exemple, de téléphonie, et qui remettent les produits à neuf pour ensuite les revendre. Il y a effectivement un gisement, par contre, de produits chez tous les consommateurs, et nous les reprenons pour que les reconditionneurs puissent les remettre à neuf.
Emmanuel Deschamps, directeur général de Boulanger, vous êtes notre grand témoin du jour. Vous aussi, vous développez des produits reconditionnés chez Boulanger?
Écoutez, déjà ce qu'on fait, c'est qu'on collecte beaucoup de produits. Quand on va livrer chez nos clients, on récupère beaucoup de produits, qu'on envoie beaucoup en recyclage aujourd'hui. Ça, c'était la tendance des dernières années. C'est un cheminement, un parcours du produit qui était numéro un il y a quelques temps, et on sent bien qu'il y a un autre parcours qui se développe aujourd'hui, qui est la revente et la remise en état dans seconde vie des produits. Donc effectivement, chez nous aussi, on travaille sur ces sujets-là, parce que vendre du neuf sans se préoccuper de la seconde vie de ce produit-là, que ce soit du recyclage même seulement en matière première, quand le produit n'est pas réparable, n'est pas reconditionnable, on doit pouvoir lui proposer quelque chose de vertueux. Et les consommateurs aujourd'hui vont vouloir savoir ce que vont devenir leurs produits quand ils ne les utiliseront plus.
Vont vouloir, c'est-à-dire que très concrètement, aujourd'hui dans vos magasins, les clients vous disent de plus en plus, qu'est-ce que vous allez faire de mon produit? Quel va être son impact écologique? C'est vraie question que vous avez au quotidien.
Assez peu encore, voilà. Mais c'est émergent.
Mais vous vous préparez à cette vague.
Exactement, exactement.
Et vous parlez de seconde vie, mais on peut parler de deuxième vie. Il peut y avoir une troisième fois, on pourrait revenir et encore apporter...
Absolument, et je voudrais revenir...
C'est illimité?
Alors, ce n'est pas illimité, mais un produit peut être effectivement réutilisé plusieurs fois, donc plus de deux fois. Je vais revenir deux secondes sur le recyclage. En fait, le marché de reconditionné, il est encore petit aujourd'hui par rapport au marché du neuf. 80 milliards contre 1,4 trilliard d'euros. Et un moyen de le développer, c'est effectivement de... Beaucoup de produits sont envoyés au recyclage qui sont encore fonctionnels. Et en fait, on peut les valoriser plus et les remettre sur le marché. Soit ils sont directement fonctionnels, soit on les répare et ils peuvent être revendus.
Back Market, merci à vous Raoul Costa de Beauregard. Vous êtes le directeur des opérations de Back Market. Emmanuel Deschamps, vous restez avec nous.
Je reste avec vous.
Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Dutheil.
Et comme chaque jour avec Elisabeth, on est vraiment très heureux de vous accompagner de 13h à 14h dans la France bouge sur Europe 1 aujourd'hui. On parle donc du marché de l'électroménager. Notre invité Emmanuel Deschamps, le directeur général de Boulanger. Alors, pendant le confinement, vos magasins étaient bien évidemment fermés. Vous avez dû réinventer complètement le modèle. Vous êtes passé en drive, c'est-à-dire qu'on commandait sur Internet, on venait chercher chez vous. Est-ce que, du coup, aujourd'hui encore, les ventes numériques sont en énorme progression?
Le 14 mars, lorsqu'on a confiné, on a basculé l'entreprise en mode pure player, c'est-à-dire 100% Internet. Total magasin totalement fermé. Et puis on s'est rendu compte très vite que toute la logistique en France, puisque tout le monde vendait sur Internet, a saturé. Et donc, c'était pas possible de continuer comme ça. Et notamment, on en a parlé tout à l'heure, avec tout le numérique. Les gens cherchaient des cartouches d'encre pour travailler chez soi, etc. Donc, on a eu l'idée d'ouvrir des drives pour sécuriser, j'ai envie de dire, nos clients avec nos collaborateurs. On a ouvert des drives et ça a très bien fonctionné.
Je crois que rien qu'avec ça, vous avez fait 2/3 du chiffre d'affaires habituel. C'est en ayant le magasin fermé, vous avez fait 2/3 du chiffre d'affaires.
Tout à fait. C'est-à-dire que sur le global du confinement, on a réussi à assurer une petite moitié de l'historique de notre chiffre d'affaires, mais sur la fin, les gens étaient habitués au drive, donc ça marchait très fort.
Mais quand on voit que ça marche aussi bien, on n'envisage pas de fermer des magasins ?
Non, parce que je crois que déjà, c'était vraiment quelque chose. Tous les magasins étaient fermés, donc effectivement, ça rendait un grand service et ça avait une grande utilité. Mais le conseil était quand même limité. Donc on avait
malgré tout, parce que la question d'Elisabeth est très intelligente, si on n'en ferme pas, est-ce qu'on se dit qu'on va en ouvrir un peu moins ? Parce que justement, on a ces canaux de distribution. Et pourquoi pas, comme fait la grande distribution, basculer une grande partie sur du drive, comme fait Leclerc, qui cartonne avec ça.
Oui, mais enfin, même en ouvrant des drives, on garde des magasins. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on croit surtout à un commerce en omnicanalité, c'est-à-dire du physique et du digital. Donc votre question, c'était, est-ce qu'aujourd'hui, après le confinement,
le numérique et le digital
continue de pousser, oui. Aujourd'hui, il y a toujours une accélération. On a franchi un palier. Ça reste encore très présent dans le mode d'achat des Français.
Pendant cette même période de confinement, vous avez joué un rôle très important auprès des soignants. C'est important de le dire, puisque vous avez mis en place des lignes spécifiques, des lignes dédiées pour les soignants, pour les servir en priorité.
Ce qui est vrai, c'est que on vit une période qui est incroyable. Et donc, il faut sortir de nos propres métiers pour faire des choses. Je crois que si notre pays, nous les citoyens, les entreprises, on fait un peu plus, on fait une part de soutien à notre pays, on peut compter que sur nous. Donc, on doit le faire. Et donc, on a eu très peur, effectivement, au début du confinement, et on s'est aperçu que nos médecins, nos soignants, étaient en difficulté pour tout faire. Et donc, on a eu l'idée, c'est venu de nos collaborateurs, on leur a demandé, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire
eux qui vous l'ont suggéré.
Oui, bien sûr. Et donc l'idée était de dire, mais peut-être qu'on peut les servir avant tout le monde. On les fait passer en priorité. Donc on a créé un service de conciergerie avec adresse mail, téléphone, etc. Et lorsqu'un médecin, une infirmière appelait, elle était servie en priorité, notamment en livraison, etc. Donc oui, on a fait ce genre de choses pendant le confinement.
Et ça va continuer ?
Alors, ça continue en ce moment. Alors, en ce moment, c'est sur l'emploi que nous faisons des choses. C'est moins, puisque les hôpitaux aujourd'hui fonctionnent encore durement, mais ça va mieux. Mais effectivement, on continuera toujours à pouvoir faire quelque chose d'humanitaire quand on pourra le faire.
Alors justement, sur l'emploi, en plus on a entendu que ça allait plutôt bien chez vous, vous avez décidé de prendre un gros engagement pour les jeunes en apprentissage ou en alternance. Je crois qu'en moyenne, sur ces dernières années, vous en preniez 300. Là, vous avez décidé d'en prendre 1000 pour cette année. C'est ça l'idée, hein ?
Oui, le sujet du moment, c'est l'emploi et l'emploi des jeunes. Les jeunes ne partent plus à l'étranger en stage parce que les frontières sont fermées. Beaucoup d'entreprises sont à l'arrêt et donc n'embauchent pas. Voire certaines se préparent au pire. Et si elles se préparent au pire, elles n'embauchent pas non plus. Et les jeunes, c'est terrible. On se souvient tous de notre premier contrat de travail avec beaucoup de fierté, etc. Et mettre le pied pour la première fois dans une entreprise, c'est important. Et
De façon très concrète, là, les jeunes qui sont en train de nous écouter, qui se disent « moi j'ai envie de travailler chez Boulanger », ils appellent qui ? Ils écrivent où ? Ils sont embauchés quand ?
Alors, vous avez un hashtag sur les réseaux sociaux « 1000 jeunes, 1000 solutions ». Qu'ils pourront retrouver, ils peuvent poster leur candidature et puis également on a mis en place une adresse mail.
Donc le recrutement se fait vraiment en ce moment, c'est ça l'idée ?
En ce moment.
Emmanuel Deschamps, une autre marque française que nous connaissons tous, si je vous dis Brandt, ça vous évoque quoi ?
Tout à l'heure on disait que Boulanger existe depuis 1954. Je pense que depuis le démarrage de Boulanger, on distribue des produits Brandt dans nos magasins. Et donc, nous sommes effectivement partenaires depuis de longues années.
Eh bien, ça tombe bien parce que nous sommes avec le président du groupe Brandt. Bonjour Simon Bardot.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Le groupe Brandt, ce sont des marques que nous connaissons tous. C'est Vedette, De Dietrich, Sauter, des marques qui progressivement se sont spécialisées dans l'électroménager. Plus de 1000 employés rien qu'en France, 2500 en Algérie, plus de 200 dans plein de filiales dans le reste du monde. Alors on va remonter un peu le fil. Tout commence en 1924 avec un certain Edgar Brandt. À la base, il est ferronnier d'art et industrie de l'armement. Et c'est un Français d'origine alsacienne. Vous pouvez nous en dire un peu plus ?
Bien sûr, tout à fait. Donc, il s'appelle Edgar Brandt, donc un nom avec une consonance un peu germanique aujourd'hui. Et d'ailleurs, on nous pose la question souvent, mais Brandt, c'est une marque française. Oui, Brandt, c'est bien une marque française. Et on parlera des autres après, on en a d'autres avec des consonances germaniques. Ce qui est intéressant, c'est qu'en 1924, quand il fonde Brandt et l'activité électroménager, la première usine, vous savez où il la met ? Il la met à Paris. Donc ça paraît un peu anachronique 100 ans après de se dire qu'on mettait des usines à l'intérieur du périphérique.
Dans Paris.
Mais c'était dans Paris. Donc les premières machines ont été fabriquées dans Paris. Après, évidemment, la croissance et toutes nos marques ont été portées par le développement de l'électroménager dans les ménages à l'après-guerre. C'est vrai pour Sauter, c'est vrai pour Vedette, on en parlera après. Donc il y a eu ce développement, mais les premières usines Brandt, elles sont à Paris. Et c'est là que naît l'entreprise.
Parce que justement, l'une de vos marques phares à la sortie de la guerre, puisque je crois que c'est créé en 1947, c'est Vedette qui vient véritablement accompagner ce développement de l'électroménager dans les familles. C'est ça l'idée. Hein.
Alors exactement, ce qu'il faut avoir en tête, 1960, Brandt, donc concurrent de Vedette à l'époque, Brandt sort la première machine automatique qui fait le lavage, le rinçage et l'essorage sans intervention humaine. Donc ça paraît évident aujourd'hui, mais c'est 1960. Et comme vous le dites, finalement, le progrès technique va accompagner ça avec un développement qui va se faire dans les années 70, où là, il y a vraiment l'explosion et la pénétration de ces produits dans les foyers français.
Alors, en 1982, vous avez eu énormément de fusions, hein, quand on voit un petit peu l'historique de Brandt. Il y en a eu en 1956, en 1982, où là, vous avez deux entreprises, Thomson Brandt et Thomson CSF, qui fusionnent pour devenir Thomson SA. Brandt, si on devait la définir, c'est quoi ? C'est une marque de milieu de gamme ?
C'est un acteur de milieu de gamme dans l'électroménager, généraliste, ça c'est important. Et effectivement, vous avez raison de le dire, en termes de cible client, encore aujourd'hui, on vise les familles, les foyers, et c'est pour ça aussi que l'ADN un petit peu de la marque est autour de la simplification du quotidien. Et ce qu'on essaie de faire encore aujourd'hui dans l'innovation qu'on apporte, c'est des innovations pour gagner du temps, des programmes de cuisson qui sont plus rapides, des programmes de lavage qui sont plus rapides, parce qu'on sait que les ménages, nos clients, n'ont pas forcément le temps nécessaire pour des cycles longs. Donc on travaille beaucoup sur les familles françaises avec des enfants.
Alors chaque jour, hein, dans La France Bouge avec Elisabeth, on aime bien entrer dans l'histoire de ces marques avec une autre marque chez vous, De Dietrich, qui est peut-être la plus vieille marque que vous ayez en portefeuille. C'est vrai qu'elle remonte à 1684. Cette marque, on a été impressionné quand on a vu ça avec Elisabeth en préparant l'interview.
C'est vrai, et l'histoire de De Dietrich est fantastique, et c'est aussi pour ça que c'est la marque premium du groupe aujourd'hui, parce qu'il y a cet héritage. Donc si on remonte très longtemps en arrière, au XVIIe siècle, 1684, Johann Dietrich, à l'époque il s'appelle Dietrich, il est banquier et il se lance dans l'industrie et il va commencer à diversifier un peu son activité bancaire avec de l'industrie. Et c'est à peu près un siècle plus tard où la famille va être anoblie par le roi, donc c'est Jean, son descendant, qui va devenir Jean de Dietrich. Donc la marque qu'on connaît aujourd'hui, elle s'appelle Dietrich parce qu'il a été anobli à la fin du XVIIIe siècle. Et l'autre point important à ce moment-là, c'est là aussi des problématiques qui sont d'actualité, la contrefaçon commence à se développer. Et le corps de chasse, qui est le logo de la marque de Dietrich, est donné par le roi pour protéger les produits fabriqués dans les usines de Dietrich de la contrefaçon. Donc c'est un logo royal qui perdure encore aujourd'hui. Sur l'ensemble des produits de Dietrich, vous avez ce logo. Vous achetez un four de Dietrich aujourd'hui, vous avez le même logo. Et juste un commentaire important, c'est la touche féminine de Dietrich qui est importante pour moi. De Dietrich, c'est une marque pour laquelle le design esthétique est importante. Exactement, c'est des produits de cuisson avant tout. Et en fait, c'est Amélie, l'arrière-petite-fille de Jean qui a été anobli, qui va mettre l'accent en se disant il faut faire des produits électroménagers, fonctionner, etc., mais aussi esthétiques. Et donc, c'est la touche féminine au XVIIIe siècle qui va amener...
Donc, grâce à elle, on a des trucs pas trop moches.
Et très beau, même, vous voulez dire.
Donc, on va vite passer. Il y a Sauter aussi, qui est la marque de luxe premium, hein, qui est une marque de Suisse, qui est là aussi très centrée sur les innovations technologiques. Où sont fabriqués actuellement le gros électroménager chez vous ? Il y a une bonne partie en France ou vous avez complètement délocalisé ?
La majorité de nos ventes aujourd'hui sont fabriquées en France. La majorité des produits qui sont commercialisés sont fabriqués en France, dans nos usines à Orléans et à Vendôme. Et en fait, la stratégie industrielle, elle est assez claire. C'est que nos produits cuisson sont fabriqués en France, et donc c'est la majorité de nos ventes. Après, sur les autres catégories de produits, donc principalement le lavage et le froid, c'est des produits qui sont très sensibles aux économies d'échelle. Donc on parle dans l'industrie de taille critique. Et donc, effectivement, là, il faut s'appuyer sur des pays et des usines beaucoup plus importantes. Donc, on s'appuie sur des fabrications à l'étranger, soit à l'intérieur du groupe, soit à l'extérieur.
Vous vous appuyez, mais le président a dit qu'il faut relocaliser. Est-ce que, vous, du coup, c'est un message qui sonne chez vous en se disant, allez, on peut peut-être y arriver si on regarde, si on optimise?
Alors, il y a plusieurs choses. C'est que, d'abord, on n'a pas attendu les derniers événements pour travailler sur le maintien de la production en France, parce que c'est évidemment un combat permanent. C'est quelque chose qui est important pour nous, qui fait partie de la cohérence du positionnement de la marque, puisqu'on parle des marques qui ont un historique. Ça me paraît naturel qu'on fabrique aussi en France. Donc ça, on y travaille. Après, comme je disais...
Vous pourriez fabriquer un petit peu plus?
Alors, on essaye de rapatrier à chaque nouveau lancement. On se pose la question. Après, la réalité, je disais, il y a un équilibre économique à trouver. Et surtout, le critère de l'innovation est important. En fait, pour arriver à fabriquer en France, moi, je suis convaincu d'une chose, c'est qu'il faut, qu'il y ait de la valeur. C'est-à-dire que les Français, peut-être que vous avez un avis différent côté distribution, mais je pense que les Français ne sont jamais prêts à payer plus cher pour fabriquer en France.
Emmanuel Deschamps, patron de Boulanger, le Made in France, ça marche, c'est un point important dans votre secteur?
Oui, et d'ailleurs surtout dans l'électroménager. Ce qui est sûr, c'est, et moi je peux vous le dire, un produit fabriqué en France, on lui accordera toujours une place un peu à part dans nos magasins. Et je pense qu'on n'aura pas le choix dans les années à venir. Et je souhaite que, si les équipes de Brandt sont prêts à nous fabriquer des beaux produits exclusifs made in France, on pourra s'engager.
Et labelliser la France bouge alors.
Oui, exactement.
Parce que ce sera grâce à nous.
Ce sera grâce à nous.
Exactement.
Merci à vous Simon Bardot, président du groupe Brandt. Emmanuel Deschamps, vous restez avec nous. Vous êtes le directeur général de Boulanger.
Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Dutheil.
Allez, c'est parti pour les trophées Europe 1. On les écoute chaque jour pitchés devant l'œil exigeant de notre patron du jour. Aujourd'hui, le directeur général de Boulanger.
Et c'est votre tour, Pierre-Yves Bad. Bonjour.
Bonjour.
Je vais vous demander de vous rapprocher un petit peu de votre micro, parce que pour que tous nos auditeurs vous entendent, il faut être près du micro. Vous êtes le fondateur de Baby Ride. Baby Ride, c'est une poussette française propre, personnalisable. Elle est disponible en précommande depuis 2 semaines. Il fallait oser pour se lancer dans un marché aussi concurrentiel. Vous allez tout nous expliquer, vous allez nous la décrire, cette poussette. On vous écoute. Vous avez 1 minute pour nous convaincre.
Écoutez, c'est une poussette que j'ai créée avec l'expérience de mes 4 enfants. Le dernier a été le déclencheur pour créer cette poussette. On a fait ça avec une société qui s'appelle Milk, qui est spécialisée dans l'univers du vélo. Donc en fait, notre poussette est customisable, comme vous l'avez dit. Elle est fabriquée en France aussi. Vous pouvez, avec un configurateur 3D, faire toutes les évolutions que vous voulez sur notre site. Elle est effectivement en précommande. Nous avons aussi fait la démarche de faire une garantie de réparabilité à vie. Et on reprend nos poussettes après usage et après les bons et loyaux services dans une famille. En fait, on veut avoir une consommation raisonnée, une alternative à une surconsommation. Et grâce à cette poussette qui est customisable, éco-responsable, on espère répondre à tous ces critères-là. Donc, vous pouvez nous rejoindre sur notre site babyride.fr pour à la fois configurer votre poussette et précommander.
Et ben voilà, c'est fini. Déjà battu la minute. Bravo pour ce pitch.
Merci à vous, Pierre-Yves. Juste la fourchette de prix avant qu'on écoute les commentaires de Nathalie Carré.
Alors, on a une poussette qui est à partir de 900 euros et qui peut monter jusqu'à 1300, 1400 euros.
Donc, on est dans le très haut de gamme. Alors, chaque jour, le dossier est passé au crible par une experte. Cette experte, c'est Nathalie Carré de la CCI France qui accompagne les créateurs d'entreprises. Les forces, les faiblesses, on l'écoute.
2 points positifs pour Babyrad. 1, la possibilité de personnaliser la poussette pour en faire un objet élégant, très tendance et bienvenu dans l'univers de la petite enfance qui n'est pas toujours super fun. Et puis évidemment 2, le côté réparable à vie et la possibilité d'acheter d'occasion et de recycler. Cet aspect éco-responsabilité est important pour les Français aujourd'hui. En revanche, un point amélioré, le positionnement. Alors avec 2 aspects dans ce positionnement, d'abord le prix par rapport aux concurrents. Vous proposez une poussette canne écolo à partir de 1000 euros, alors qu'il y a sur le marché des poussettes 2 en 1, nacelle plus poussette canne, également écologique, à 300 euros. Et donc le public doit vraiment comprendre pourquoi cette différence de prix. D'autant que vos concurrents insistent beaucoup sur la sécurité, l'ergonomie, la praticité, le bien-être du bébé ou de l'enfant, qui sont des sujets majeurs pour de jeunes parents. Donc vraiment, cette différence que vous avez, pour, qui justifie les 700 euros d'écart malgré tout, vous devez vraiment l'expliquer. Et puis le deuxième aspect sur ce problème de positionnement, c'est la proposition de valeur de la poussette. Sur votre site internet, vous passez de, en début de page, une poussette éco-responsable, à, en fin de page, une poussette qui vous permet d'aller partout. Donc il y a là deux bénéfices clients en fait assez différents et il peut être important de clarifier cette promesse pour faciliter l'achat au plus grand nombre.
Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est très pertinent ce que vous dit Nathalie Carré. Hein. Deux bénéfices clients qui ne sont peut-être pas regroupés.
Alors dans ces deux bénéfices clients, j'ai retenu le second et qui est toute la différence avec la poussette Cannes. C'est que nous, on a une poussette justement... pour aller partout où les autres ne vont pas. C'est-à-dire qu'elle est à l'antipode de la poussette Cannes. C'est-à-dire qu'on a fait des customs pour aller sur la plage, pour aller sur le sable, pour aller dans la neige. On aura en option des skis. Donc, en fait, on est vraiment une poussette pour les grands espaces.
Des skis sous la poussette ?
Pardon, oui. Et donc, on aura vraiment une poussette pour les grands espaces, mais aussi pour les parcs des villes, les citadins. Mais c'est vrai que le théâtre de prédilection de cette poussette, c'est quand même une mobilité sur des grands trottoirs et sur des tout-terrains.
Emmanuel Deschamps, directeur général de Boulanger, qu'est-ce que vous en pensez, vous, quand vous entendez ce projet entrepreneurial ?
Moi, ce qui me marque, c'est que j'entends un bon produit de qualité avec quelques différenciations. Et puis, inscrit dans cette économie circulaire. J'ai bien compris que le positionnement était bien ciblé et un peu haut de gamme. Je pense que si j'avais un petit conseil à donner, c'est...
Mais allez-y, vous êtes là pour ça.
Je pense qu'on pourrait déjà intégrer dans quelques temps le prix généralement constaté à la revente. Pourquoi ? Parce que la poussette est un produit qui est éphémère dans une vie. Et donc, il y a forcément une deuxième ou une troisième vie. Et peut-être que je conseillerais ça.
Alors, excusez-moi de vous couper. Justement, on a pensé à ça puisqu'on reprend nos poussettes à un prix garanti.
À combien ?
C'est-à-dire à 150 euros après diagnostic, mais le prix le plus bas, ça sera 150 euros. Si c'est plus, on donnera plus et on mettra
c'est
ça aussi sur notre
site. Le prix minimum qu'on est sûr d'avoir, voilà, c'est 150 euros. Et bien, comme vous voyez, c'est une très bonne idée, Emmanuel Deschamps.
Merci à vous, Pierre-Yves Batte, fondateur de Baby Ride. On vous souhaite bonne chance avec vos poussettes. Hein. Précommande, hein, c'est en ce moment. Donc, si vous en avez envie, c'est le moment ou jamais.
Et si vous avez vous aussi un projet, si vous avez envie d'être challengé par notre patronne ou notre patron du jour, eh bien c'est très simple, vous pouvez envoyer votre candidature sur notre boîte mail e1-lafrancebouge@europe1.fr. Elle est difficile, mais c'est normal, c'est pour mesurer vos envies et vous aurez peut-être comme ça la chance de faire partie de nos candidats en route pour les trophées Europe 1.
Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Dutheil.
Bon, décidément, ça va chaque jour beaucoup trop vite, cette France bouge. On va bientôt faire une émission de 2 heures. Aujourd'hui, on va essayer de rentrer dans les clous. Dernière séquence demain au travail. On est toujours avec notre patron du jour, Emmanuel Descamps, le directeur général de Boulanger.
Et nous sommes avec Laetitia Pétillon. Bonjour Laetitia.
Bonjour à tous.
Vous êtes la responsable des ressources humaines de la division oncologie chez Novartis. Novartis, c'est énorme. Hein. Ce sont 2300 salariés en France. C'est une entreprise qui est centenaire. Et vous n'avez pas attendu la loi pour mettre en place le congé parental. Demain au travail, ça existe déjà pour vous, puisque 16 semaines de congé parental, c'est une réalité chez vous depuis le 1er janvier dernier.
Tout à fait. Effectivement, nous, chez Novartis, ça fait maintenant 2 ans qu'on a entrepris un grand chantier de transformation culturelle. Et c'est dans ce cadre-là qu'en mars 2019, le groupe a mis en place ce congé de parentalité de 14 semaines qui s'ouvre à tout parent, donc homme ou femme, quel que soit le modèle familial et le type de parentalité. Donc, on parle bien de naissance, d'une adoption ou également de la GPA et PMA.
Ça, c'était 14 semaines en 2019.
Alors,
mais vous avez... Allez-y.
Le groupe, effectivement, a voulu mettre 14 semaines. Et nous, en France, on a souhaité aller plus loin en proposant un congé de 4 mois. Parce que pour nous, ça s'inscrit vraiment dans une démarche d'égalité, mais de parité aussi homme-femme. Et pour nous, dans cette transformation culturelle, le bien-être de nos collaborateurs est très important. Donc, c'est important qu'ils se sentent bien dans leur environnement de travail, mais qu'ils soient également eux-mêmes. On est parents, on est collaborateurs, et pour nous, c'était difficile de dissocier les deux et important de conserver ça.
Alors, vous allez me croire intéressé, mais vous donnez ces avantages au père. On sait que parfois, c'est compliqué d'un point de vue sociologique pour le papa de partir 16 semaines de l'entreprise parce qu'il se dit plus que la maman qui va se faire oublier, que ça va être dramatique pour lui. Est-ce que la barrière psychologique est passée ? Est-ce que les hommes le prennent ?
Oui, tout à fait. On a d'excellents retours. À fin septembre, on a 52 personnes qui ont accédé à ce congé, là où avant, on avait une vingtaine de congés paternité par an. Et c'est vrai qu'il y avait également un frein au niveau de l'impact de cette mesure sur la carrière. Beaucoup se sont posé des questions et on a eu un bel exemple. On a un membre de notre comité de direction qui a été un des premiers à bénéficier de ce congé. Donc ça a permis aussi de lever ce frein en montrant que peu importe votre niveau de responsabilité dans l'entreprise, le congé est accessible à tous dès lors qu'ensuite il est bien préparé.
Emmanuel Deschamps, chez Boulanger, le congé parental, c'est quelque chose qui est évoqué depuis déjà pas mal de temps.
Oui, bien sûr. Enfin, en tout cas... On sait très bien qu'on s'en tient à culturellement, en tout cas. C'est, ça n'a pas toujours été simple pour les hommes de prendre un congé parental.
C'est ce que disait Emmanuel, tout à fait. Il y a un frein psychologique à
franchir. Ce qui est sûr, c'est qu'on on a un peu décomplexé l'entreprise. Donc aujourd'hui, on n'a pas de difficultés. Les gens prennent naturellement, voire on encourage à ce qu'ils le prennent.
Après, vous pourriez aller dans des choses aussi ambitieuses, 16 semaines, ou c'est impossible dans un magasin de commerce comme vous?
Déjà, on a des gens en SAV, en entrepôt, au marketing. On n'a pas que des magasins.
Bien sûr.
Je crois que chaque entreprise a son corps social. Pendant le Covid, on a garanti le salaire des gens à 100%. En fait, ça dépend un petit peu de la philosophie des entreprises. Et je trouve l'idée intéressante. En tout cas, elle bouscule. Elle fait réfléchir. Culturellement, j'ai plutôt envie d'encourager les gens à gagner
un
plus,
petit peu de temps.
À les encourager à produire plus pour l'entreprise, tout en respectant évidemment le repos nécessaire, etc. Mais en tout cas, ça fait réfléchir.
Ça fait réfléchir. Merci Laetitia Pétillon, responsable des ressources humaines. 16 semaines de congé parental, on l'a bien retenu.
C'est la fin de votre émission. Merci à notre témoin du jour, Emmanuel Deschamps, le directeur général de Boulanger.
Et on se retrouve lundi, après un bon petit congé de fin de semaine, pour une nouvelle France Bouge. On parlera de quoi, Emmanuel?
Eh bien, je vous emmènerai notamment au restaurant, puisque nous allons recevoir le patron d'Edenred. Alors comme ça, je suis certain que ça ne vous dit rien.
Non, pas du
C'est
tout.
Le leader mondial des titres restaurants, et le groupe est même l'inventeur des titres restaurants. À lundi.
À lundi, et dans un instant, Christophe Ondelat.